Bonjour à tous. Un début de semaine zen avec la journaliste Marie Coq qui raconte les coulisses d'un phénomène mondial aux 300 millions d'adeptes. C'est le yoga, de son berceau indien à la Californie. Comment le yoga a-t-il conquis le monde? Comment est-il devenu aussi un business? On en parlera à partir de 12h55. Mais d'abord, pièce par pièce, elle construit un récit, transforme des silhouettes en personnages, donne forme à ses rêves. La romancière Marie Ndiaye revient avec trois textes pour les planches, trois pièces chez Gallimard et un pas de chat sauvage chez Flammarion, autour de Maria, femme photographiée au 19e par Nadar, dont elle cherche à découvrir la vie derrière l'image, la personnalité derrière la pose. Marie Ndiaye est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Vendredi, dans le cadre de notre journée spéciale Modèle Noir, à l'occasion de l'exposition Événement qui commence demain au musée d'Orsay, l'historien Pape Ndiaye nous disait comment Joséphine Baker, première icône noire, a marqué les esprits et les représentations. Suite aujourd'hui et en partie de la discussion ouverte avec lui, avec Marie Ndiaye qui s'est, elle, piquée de curiosité pour une figure anonyme, un de ces modèles dont on ne connaît que l'image, Maria l'Antillaise, dans l'œil du photographe Nadar, un cliché des années 1860. Bonjour Marie Ndiaye.
Bonjour.
C'est un peu une affaire de famille, se plonger dans l'image pour tenter de percevoir ce qui vibre derrière, la vie de ces personnages. Une femme dans un lit de coussin, le regard lointain, le visage posé sur la main, le second tient un éventail. À force de contemplation, comme vous l'écrivez, qu'est-ce qui vous a attiré, intrigué dans cette image de Maria l'Antillaise ?
Cette image, ou plutôt ces trois images, puisqu'il y a trois photos de cette femme. Maria Martinez, née à La Havane dans la première partie du 19e siècle, et qui a eu une vie remarquable, extraordinaire, même si probablement dure et triste aussi. Après avoir été emmenée en Espagne où elle a appris le chant, et elle avait au dire de tous, puisqu'on a des extraits de lettres et d'articles, une voix admirable. Elle est venue chanter en France et elle a eu vraiment quelques années de grand succès. Et c'est grâce à cette gloire brève mais réelle qu'on en sait un peu sur elle, puisqu'elle a été l'objet d'assez nombreux articles. Articles qui d'ailleurs évoquaient moins son art que son visage, ses cheveux, sa peau, ses robes, dont on était assez surpris qu'elle ose les porter, puisque étant une femme noire à l'époque, il semblait souvent aux auteurs de ces articles qu'elle aurait dû apparaître dans je ne sais quel vêtement exotique à leurs yeux et surtout pas en belle robe comme les femmes du monde en portaient. Mais cela mis à part, elle a vraiment réussi à faire reconnaître son don et son travail de chanteuse lyrique. Cela n'a malheureusement pour elle durer que quelques années, après lesquelles elle semble sombrer dans une misère dont on ne comprend pas très bien les causes. Et elle disparaît ensuite absolument tant des gazettes que des lettres que les gens ont pu écrire à son propos.
Et alors sur les causes, vous avez cherché à les interpréter, vous avez cherché à comprendre pourquoi, de quoi elle a pu être victime personnellement ou par le regard social aussi.
On ne sait pas. Alors on peut imaginer que peut-être elle n'avait plus de voix aussi, hein, qu'elle n'arrivait plus à chanter, donc à se produire, à travailler et à vivre de son travail. Mais est-ce qu'elle a sombré dans autre chose qui relèverait de la dépression, de la nostalgie? On ne sait absolument pas, puisque par définition, quand vous disparaissez, on ne parle plus de vous. Mais j'aime imaginer qu'elle a disparu pour mieux peut-être rebondir et que, sans qu'on le sache, elle a pu renaître ailleurs, peut-être rentrer en Espagne.
Vous n'avez plus de doute aujourd'hui, pour vous c'est un fait établi que cette Maria, photographiée par Nadar, et Maria Martinez, artiste de scène que vous évoquez, soutenue par Théophile Gautier, sont la même personne?
Les historiens ont un doute, la romancière que je suis choisit de ne pas en avoir.
Pourquoi?
Parce que sinon il n'y a plus d'histoire. Et vraiment c'est extrêmement probable que ces deux femmes noires, au même prénom, artistes et modèles à l'époque, soient une seule et même femme.
Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui pouvait fasciner le photographe, ce qui a pu fasciner Nadar dans ce modèle? Parce que c'est aussi ça que la question du modèle pose, la fascination qu'il peut exercer dans l'œil de l'artiste ou qu'elle peut exercer dans l'œil du photographe.
On peut supposer que déjà il l'a trouvée magnifique, il l'a trouvée belle simplement comme modèle. On peut supposer aussi qu'il a eu à cœur de faire le portrait d'une grande artiste. Et cette Maria Martinez qui pose devant Nadar, elle ne pose pas comme modèle, elle pose comme chanteuse lyrique dont il appartient de faire le portrait comme on l'a fait pour des écrivains et d'autres artistes.
Vous n'avez pas été fasciné, vous, par son regard sur ces trois photographies de Nadar, ce regard un peu perdu, au loin, un peu évasif,
oui,
oublieux?
En effet, quand Nadar la photographie, elle est à la fin de ses quelques années de succès et on voit que les choses ne vont plus très bien. Elle a le regard triste, mélancolique et lointain.
Cette femme dont la vie devait me servir à rehausser la mienne, dit la narratrice. Un modèle n'est jamais perceptible ou compréhensible que pour ce qu'il est. Il prend forcément cette autre dimension qui est celle du regard que le regardeur pose sur lui, de tout ce qu'on l'investit. De quoi vous l'avez-vous investi, ce modèle, cette femme, Maria, vous, Marie Ndiaye?
Je me suis dit que après avoir lu les quelques articles donc qui ont été écrits à son sujet, je me suis dit que cette Maria Martinez n'avait jamais eu l'honneur peut-être d'un récit qui ne soit pas obsédé par son apparence, son exotisme, son étrangeté aux yeux de l'époque. J'aurais souhaité, et je pense que c'est un projet que je peux avoir, écrire plus longuement à son sujet. Je pense que son histoire, comme la femme qu'elle semble avoir été, mérite un grand récit.
Autant que Joséphine Baker, sur laquelle votre frère, Pape Ndiaye, nous le disait vendredi, est en train d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes, ces personnalités devenues iconiques aussi aujourd'hui, dont on pense connaître toute la vie, mais dont finalement, là encore, beaucoup de secrets restent à percer. Vous avez autant envie, vous, d'entrer dans ces vies anonymes que dans ces vies célèbres, si ce n'est plus.
La pauvre Maria Martinez évidemment n'a pas eu le temps de devenir iconique, et puis je pense d'ailleurs qu'elle a vécu à une époque où la femme qu'elle était avait peu de chances de devenir iconique, mais je ne pense pas d'ailleurs qu'elle puisse le devenir parce qu'on a trop peu à son sujet, et elle a disparu alors qu'elle était âgée de moins de 30 ans. Mais en tout cas, sans avoir une telle ambition d'en faire une figure iconique, on peut plus modestement souhaiter la faire connaître et reconnaître. Ce qui est difficile, évidemment, et frustrant avec le chant, c'est que on n'en a que les récits qui ont été faits de son chant, puisque, bien évidemment, aucun enregistrement n'en existe, donc on ne peut que que rêver sur cette voix aussi, sur son accent, puisqu'elle devait avoir un accent de la Havane, elle devait avoir quelque chose de très particulier dans son français. Mais voilà, ce sont des éléments autour desquels on ne peut guère faire beaucoup plus que de rêver.
Si vous écrivez plus en profondeur encore cette histoire, si vous continuez à aller chercher cette vérité, vous le ferez avec le sentiment de lui rendre justice ou avec un plaisir coupable, celui d'aller chercher sa vérité derrière la pose, derrière l'image, et peut-être même, comme vous l'écrivez, au dépens du droit de cette âme morte de n'être livrée à la passion de quiconque.
Je pense que mon regard sur elle serait suffisamment respectueux pour qu'elle ne risque rien, si j'ose dire, entre mes mains. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Elle n'en a cure maintenant. Mais de même que le regard que pose Nadar sur cette femme est absolument empreint de respect, presque de tendresse, je pense que mon propre regard sur cette femme serait empreint des mêmes choses.
Surtout que vous êtes une romancière, vous, Marie Ndiaye, qui a le goût du secret, en tout cas pour vos personnages de fiction. Vous conservez à tous vos personnages des zones d'ombre. C'est le cas dans ces trois pièces qui sont publiées aujourd'hui chez Gallimard. À nouveau, vous organisez et vous préservez leurs secrets. Pourquoi l'homme de délivrance, la première pièce, est-il parti? Quel genre de mère, la Marina de Berlin, mon garçon, a-t-elle été pour que son fils en arrive à disparaître sans donner de nouvelles? Le passé de l'élu dans la troisième pièce, honneur à notre élu, mystérieusement réincarné par d'étranges parents, est-il vrai ou est-il faux? A-t-elle fait ce que ses parents lui reprochent? Et enfin, vous orchestrez aussi les silences, hein, là encore, celui du fils de Maria dans Berlin, mon garçon, celui de l'épouse dans Délivrance qui ne répond pas aux lettres de son mari. Ces zones d'ombre pour vos personnages de fiction, en quoi sont-elles essentielles? Pourquoi les préservez-vous toujours?
Je pense que je ne souhaite pas tant les préserver, puisque ce ne sont malgré tout que des personnages de fiction, que d'essayer de faire comprendre aux lecteurs qu'ils sont d'autant plus vrais, d'autant plus crédibles et éventuellement d'autant plus émouvants qu'on ne sait pas tout d'eux et que ce que l'on ignore d'eux pousse d'ailleurs l'imagination à se lancer en quête de tout ce qui ne nous est pas révélé. Mais c'est pas tellement de la stratégie de ma part, d'ailleurs. Moi-même, je ne sais jamais tout des personnages que je crée. Et quand je crois en savoir énormément, ils m'échappent aussi. Hein. Ils ont, tout en étant que des personnages, une sorte de vie propre que je ne cherche pas du tout à traquer.
Notre élu est mon ennemi, hélas. Mais ses amis sont mes amis, dès lors qu'ils me rendent visite. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Hein?
Tu mérites? Oui. D'être puni. Mais pas par moi.
Ce que nous devons donc accepter avec gentillesse et bonne humeur, c'est que vous avez deux grands-parents de plus, et voilà, n'est-ce pas une merveilleuse nouvelle?
Nous n'avions pas espéré, à dire vrai, un tel accueil. Comment as-tu pu dire à ton mari que nous étions morts?
N'ayons pas peur de tout savoir, apprenons ce qui l'affecte jusqu'au dégoût. Ce qui nous restera caché, inventons-le jusqu'au dégoût. Soyons infâmes, s'il le faut. Détestons-nous nous-mêmes, si nécessaire.
troisième pièce du recueil « Honneur à notre élu » a été mise en scène en 2017 par Frédéric Bellier-Garcia au Théâtre du Rond-Point, joué, interprété, l'élu par Isabelle Carré et par Patrick Chenet, notamment Chenet qui incarnait l'opposant. C'est une élue adorée par tous ses administrés, elle est parfaite, elle est adulée, si bien que même l'opposant refuse de lui livrer bataille jusqu'à orchestrer un très mauvais coup pour tenter de la déstabiliser. « Honneur à notre élu », vous l'avez pensé, Marie Ndiaye, comme une fable politique sur l'innocence, sur l'abnégation au service de l'intérêt général. C'est une fable qui nous parle de cette politique telle qu'on aimerait la voir se jouer aussi sur le théâtre de la vie publique, mais telle que souvent elle ne se produit pas.
Je pense que c'est préférable que cela ne se produise pas ainsi, car le personnage de notre élu, donc cette femme, mère d'une ville moyenne, si elle est vertueuse, elle est de manière effrayante aussi. Elle pousse son engagement, son honnêteté et sa probité à un point tel qu'elle en devient peut-être excessive, qu'elle en devient inhumaine aussi. Et je pense qu'il faut toujours se méfier des gens qui placent leur propre vertu au-dessus de tout, qui n'en attendent d'ailleurs pas autant de ceux qui les entourent, et pas par bienveillance ou magnanimité, mais plutôt par orgueil. Donc ce personnage de notre élu, tel que je l'ai conçu, est plutôt un personnage effroyable que modèle.
Elle est d'autant plus effroyable d'une certaine manière qu'elle l'est en miroir avec les autres, hein, dans sa manière d'interagir à la fois avec les militants, à la fois avec les administrés de cette petite commune et avec l'opposant par l'image qu'elle leur envoie d'eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'elle a réfléchi, mais cette idée du reflet de l'image des autres qu'elle renvoie dans sa propre perfection, dans sa propre abnégation, jusqu'à ne même pas réagir à la diffamation qu'elle estime plus puissante que les dénégations. Vous l'écrivez souvent, on s'enferre en protestant dans son innocence. Donc quand ses vrais faux parents vont arriver, qu'elle va devoir répondre de ses actes, elle choisit le silence et de ne pas réagir à cela. Elle les accepte. C'est tant de qualités quand même qui manquent un peu à l'époque. On l'a vu de l'affaire Fillon, quand la pièce avait été mise en scène en 2017, jusqu'à aujourd'hui, avec les selfies du maire du Havre. Cette question de l'exemplarité ou de la probité en politique se pose pour vous et devrait quand même se poser.
Oui, oui, bien sûr, de manière générale, évidemment. Mais puisque ce qui m'intéresse quand même dans l'écriture, c'est de montrer des gens qui, pour être ordinaires, n'en sont pas moins étranges. Ce désir de martyr, en fait, hein, qui habite cette femme, nous ferait presque préférer les humains plus faibles et qui sont peut-être moins essentiellement dangereux que ceux qui n'acceptent jamais la moindre faille dans leur cœur.
La démocratie a-t-elle pour vous besoin, Marie Ndiaye, aussi de conflits, de lignes de clivage affirmées, ce qui disparaît complètement dans le cadre de cette élue dite idyllique ou parfaite? Il n'y a plus du tout de friction, il n'y a plus de conflit. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il faut rétablir de la dispute, du dialogue, mais aussi du conflit dans les relations démocratiques, dans nos sociétés.
Je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit à une époque où la dispute, le conflit, l'invective éventuellement soit ce qui nous manquerait. J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire et qu'on est en général soumis à des sources de contrariété, de rage et de violence plus forte encore que ce n'était le cas.
En tout cas, il est revenu par la rue après une élection d'un président qui se disait ni de droite ni de gauche, qui pensait pouvoir réconcilier ce qu'étaient les deux camps traditionnels de la vie politique, ce besoin de conflit peut-être justement.
Est-ce qu'on a vraiment besoin du conflit, je ne sais pas. Besoin, oui, de la discussion, mais le conflit, je ne sais pas s'il est si souhaitable que cela.
Le fil qui relie ces trois pièces, Marie Ndiaye, Délivrance, Berlin mon garçon, Honneur à notre élu, c'est aussi la solitude, celle de vos personnages, la solitude de l'exilé, celle de l'exilé expatrié dans Délivrance, la solitude du pouvoir dans Honneur à notre élu et la solitude de la mère. C'est un théâtre de solitude que vous mettez en scène. Je voulais vous amener sur l'écriture pour le théâtre, pour les planches, qui est somme toute assez différente de celle que vous pratiquez pour le roman. On voit à travers ces trois pièces que vous expérimentez, que vous vous exercez à trois styles très très différents dans la mise en forme, la mise en scène de ces histoires. Est-ce que c'est ça aussi que permet le théâtre pour vous aujourd'hui ?
En fait, chacune des pièces que j'ai écrites l'a été à la suite d'une demande que l'on m'avait faite, le plus souvent d'un metteur en scène, de la radio, France Culture en l'occurrence, et plus rarement d'un théâtre. Jamais, contrairement à mes romans qui sont les purs fruits d'un désir intime, d'une nécessité même intime, jamais je n'ai écrit une pièce de mon propre chef, en quelque sorte. Et les contraintes, d'ailleurs, que mes metteurs en scène ou directeurs de théâtre m'imposent gentiment, des contraintes extrêmement pratiques, nombre d'acteurs, éventuellement budget, etc., dessinent des limites entre lesquelles je m'ébats avec joie, entre lesquelles l'imagination d'ailleurs doit se montrer peut-être plus vive encore, plus maligne, louvoyante, onirique. Alors que lorsque j'écris un roman, je suis dans une liberté totale.
Presque en manque de contraintes, justement.
Presque en manque de contraintes, oui. Les contraintes m'aident, finalement. Mais cela dit, le théâtre ne doit pas relever chez moi de la même nécessité, puisque, comme je le disais précédemment, chaque pièce a été l'objet d'une demande.
En 2003, votre pièce « Papa veut manger » est entrée au répertoire de la Comédie française. C'était une première aussi pour une romancière de voir l'une de ses pièces entrer à ce répertoire de son vivant sur la Marie Ndiaye dramaturge et sur ce texte qu'est « Honneur à notre élu ». Déjà mise en scène donc en 2017, voici ce que dit la comédienne Isabelle Carré. Elle pense en tout cas que ce texte a tout d'un futur grand classique.
Je suis sûre, j'en mettrai mes deux mains à couper que ça va devenir un grand classique, parce que il y a un côté, oui, shakespearien dans cette fable. Il y a une écriture qui peut être par moments très construite, lyrique et parfois très concrète dans des questions très quotidiennes. Et ce mélange-là est assez étonnant. Il y a ces zones d'ombre et cette clarté en même temps. Mon personnage est d'une clarté incroyable. C'est vraiment droit dans ses bottes. Et en même temps, il y a ce silence et ce mystère, cette épaisseur en dessous. Il y a des grands personnages, il y a des grandes confrontations. Il y a une scène qu'on attend longtemps, mais qui vaut le coup. Ça vaut le coup de l'attendre entre moi et Patrick Chesnais, entre l'opposant et notre élu, où enfin il se serre la main. Il y a ces discours aussi de lui à la fin et le mien qui clôt un peu le spectacle. Enfin voilà, la construction dramaturgique est brillante et il y a des phrases effectivement inoubliables qu'on a envie de retenir pour toute la vie.
des phrases inoubliables. Voilà pour Isabelle Carré qui interprétait donc le rôle de l'élu dans cette pièce Honneur à notre élu qui est rassemblée avec deux autres pièces pour Gallimard aujourd'hui. Sur Berlin, mon garçon, cette deuxième pièce dont on a encore peu parlé, vous mettez en scène cette ville qui a été votre ville d'adoption pendant quelques années. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais j'ai peu le souvenir dans vos précédents livres que vous parliez autant de Berlin. Berlin que vous présentez à la fois comme une ville repoussante, une ville pleine de promesses, mais qui n'y répond pas tout le temps. C'est une ville qui a mis du temps à entrer dans vos histoires, dans vos récits, à pouvoir devenir une ville de fiction, elle aussi.
Oui, j'ai dû attendre de n'y plus vivre à temps plein pour écrire, peut-être pas à son sujet, mais en tout cas aux environs, enfin pour m'approcher légèrement de ce lieu qui a donc été ma ville pendant une dizaine d'années, qui reste ma ville, même si je n'y suis plus 12 mois sur 12, mais que j'ai du mal encore à mettre en mots.
Berlin, vous étiez parti vivre après l'élection de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes rentré aujourd'hui. Cette ville diabolique, comme vous la qualifiez, cette ville aussi qui peut être le lieu de toutes les métamorphoses, ce pays des plaisirs où un jeune homme, donc le fils de Marina, a disparu, s'est noyé, peut-être échappé quelque part dans le rythme, le bruit et les plaisirs de cette ville. Vous le comparez d'ailleurs au petit âne. Transformé dans Pinocchio, c'est ce qui arrive, le sort qui arrive aux enfants qui veulent trop profiter de ces petits plaisirs-là. Aujourd'hui, on est à quelques semaines de la prochaine élection européenne. Quelle est votre part allemande à vous aujourd'hui, Marie Ndiaye? Est-ce que ça fait partie, cette ville, son atmosphère, ce pays aussi de votre identité de romancière européenne?
Je l'aurais aimé, c'était même mon souhait lorsque je suis arrivée là-bas. Et malheureusement, j'ai été face à mes propres impuissances, mes propres inaptitudes, puisque n'ayant jamais appris l'allemand auparavant, je suis arrivée pleine de courage, d'énergie et surtout de certitude que ce serait une affaire rondement menée que mon apprentissage de la langue. Et j'ai dû déchanter, je me suis en quelque sorte déçue moi-même, j'avais fait preuve d'immodestie. Je n'ai jamais réussi à apprendre cette langue de manière convenable, on va dire, en tout cas suffisante pour lire la presse et pour avoir avec des Allemands des conversations qui dépassent un niveau pratique. Et je ne crois pas qu'on puisse se sentir profondément citoyenne d'un lieu quand on ne maîtrise pas sa langue et quand on doit pour discuter, avoir affaire à un anglais bancal ou à un français que mes interlocuteurs ne comprennent pas nécessairement très bien. Donc cette impuissance à apprendre la langue fait que je resterai
étrangère.
Toujours une étrangère. Ce qui ne me déplaît pas tant que ça, finalement, d'être une étrangère quelque part.
Merci beaucoup à vous, Marie Ndiaye. Trois pièces, Délivrance, Berlin, mon garçon, Honneur à notre élu, rassemblées aujourd'hui par Gallimard, c'est du théâtre. Et ce petit livre, Un pas de chat sauvage, qui raconte donc l'histoire de Maria Lantiaise, Un pas de chat sauvage, paru chez Flammarion et de vous aussi. Il a été réalisé dans le cadre de l'exposition Modèle noir, qui débute demain au musée d'Orsay. Merci mille fois.
Merci.